Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui Gianni Camus, donc du CHR Michel. Gianni, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on a plein de questions à vous poser, notamment sur le dernier match formidable que vous avez réalisé contre Brive, même si c'est Brive qui s'en sort. Donc, je vais laisser la première question à poser par Christian. C'est à toi, mon grand.
On va forcément revenir sur ce quatrième tour de Coupe de France. Déjà, avant de parler du match en lui-même, Gianni, c'est vrai que l'objectif de tous les clubs, hein, que ce soit départementaux ou au niveau de ligue, c'est d'arriver à ce fameux quatrième tour pour les maillots. Pour avoir les maillots officiels de la Coupe de France. L'objectif est rempli, je t'imagine très heureux de l'avoir rempli.
Oui, ben surtout pour les garçons, parce que la plupart n'avaient jamais eu de... Même tous, hein, les garçons n'avaient jamais eu de maillot de la Coupe de France. Donc effectivement, c'était quand même une joie là par rapport au match de Saint, où c'était vraiment un exploit qu'on a réalisé. Donc là, les garçons étaient super ravis de récupérer ces maillots. On dit toujours maillot, mais il y avait quand même la paire de chaussettes et le short avec.
Tu faisais référence au match de Saintes. C'est vrai que Saintes, c'était donc le tour d'avant. On était donc au troisième tour. À ce moment-là, Saint-Michel et Saintes jouaient dans leur maillot traditionnel. Et vous avez réalisé un sacré exploit, parce que Saintes R2, en plus une bonne R2, ouais. Vous qui êtes en première division district, donc ça faisait deux divisions en dessous, trois même si on considère qu'il y avait la PL avant, et vous avez battu Saintes 6-2,
c'est bien ça, ouais. On perdait 1-0, et effectivement, surtout qu'en championnat, nous, on n'est pas au mieux, hein. On a deux défaites dans l'effectif là sur deux matchs de championnat, donc on n'abordait pas cette compétition Coupe de France le plus sereinement possible, mais ceci dit... chez les garçons, enfin, c'est un mélange d'anciens et de jeunes qui me permet qui est formidable d'ailleurs. Hein. Ça fait 5 ans, c'est la 5e saison que je suis avec eux, donc ça se passe super bien. Mais c'est vrai qu'on était loin d'imaginer de rivaliser avec Saintes, parce que Saintes, effectivement, en plus avait battu Jarnac le match de championnat du week-end d'avant. Et nous, on en avait pris 8. Quand on était complètement à l'opposé,
comment t'expliques justement d'avoir pris 8 buts en championnat la semaine d'avant et finalement d'en coller 6 à Saintes? Parce qu'au final, c'est un peu les montagnes russes.
C'est simple à expliquer. Il faut savoir que quand nous sommes allés pour le premier match de championnat à Conflans, j'avais 4 joueurs en moins. Des joueurs qui ont un impact sur le groupe. Et à des postes importants. Et Conflans, qui s'était fait battre 15 jours avant en Coupe de France contre Chasseneuil, et j'avais vu en plus leur coach, là, j'avais fait le recyclage brevet d'État à la Ligue, et j'avais vu leur coach Conflans qui m'avait dit, de toute façon, on vous attend de pied ferme par rapport au match de Coupe de France qu'on a perdu. Donc là, déjà, nous, on allait un petit peu... On savait la correction, on s'attendait à ce qu'on soit attendu de pied ferme. Donc c'est ce qui s'est passé et on est complètement passé à travers. Alors bon, ouais, après,
il faut dire aussi que Conflans, c'est une équipe qui était au niveau ligue, qui était même en DHR il y a quelques années, donc c'est pas non plus dans ce championnat de D1 qui est très relevé, avec notamment on peut citer des équipes comme Saint-Ariex, la réserve de Leroy. Conflans, c'était pas non plus le petit morceau à prendre dès le premier match.
Comme je le dis toujours aux garçons, faut pas chercher d'excuses. On n'est pas passé au travers. Mais il est vrai que la semaine d'après Conflans, j'ai remonté un petit peu les bretelles à tout le monde. Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on a eu une réaction sur le terrain, surtout qu'on perdait 1-0 comme ça, un tout petit minute de jeu. Donc on était mal embarqué encore. Et on a eu une réaction dans la 20e minute de jeu où on a enchaîné... des 3 buts de suite, on gagnait 3-1 à la mi-temps. Et en plus, ça c'est toutes les actions à domaine offensif se sont réalisées sur des séquences de genre une touche ou deux touches et enchaînement de buts derrière. Quoi. Donc c'était et c'est 6, mais c'est 9 qu'ils auraient pu prendre.
Ouais, j'ai vu les vidéos. C'est des beaux buts, c'est pas des buts de raccro. Enfin, il y a des lucarnes, il y en a 2, je crois. Il y a de belles lucarnes.
Ouais, sur 2 coups de pied arrêtés, effectivement, qui sont le 5e et 6e but. Ouais. C'est pas le même joueur qui les tire. Ces 2 buts à 25-30 mètres du but sur coups de pied arrêtés, qui sont en pleine lucarne côté droit du gardien.
Parce qu'il faut dire également, en ce qui concerne le match contre Brive, vous êtes un petit peu... enfin, je dirais qu'il y a eu un fait d'arbitrage sur notamment le deuxième but. J'ai regardé la vidéo.
Le match était filmé en plus par Erwan là, qui nous filme, on en parlera
tout à l'heure d'Erwan.
Il a fait un arrêt sur image sur le premier but. C'était pas sur le deuxième, c'était sur le premier but.
Sur le premier.
Et nous, de toute façon, j'ai rien à cacher. Je joue dans un dispositif par rapport aux garçons que j'ai avec moi. On joue décroché. Hein. On joue à l'ancienne. On joue pas à plat comme au Barça, comme voient tous les gamins à la télé. Parce que mes garçons acceptent justement de jouer comme ça. Le coach de Brive est venu me voir à la fin en me disant vous nous avez posé énormément de problèmes parce que des individualités au milieu et derrière et devant s'appresser. Donc ça a gêné cette équipe de Brive. Et sur le premier but, on a fait un arrêt sur image. Et en plus, moi, j'étais derrière l'arbitre. J'ai pas insisté. Hein. Je lui dis à l'arbitre, il est hors jeu. Et bon, bien sûr, un peu plus fort. Hein. Mais je n'ai pas insisté parce que j'ai pas voulu polémiquer, puis que ça en finisse plus comme.
Oui, bien sûr.
Comme on peut le voir sur certains terrains. Donc j'ai laissé tomber. Sauf qu'à l'arrivée, effectivement, c'est un fait de jeu. Alors, il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que le lendemain, donc dimanche, l'arbitre de touche a appelé mon président pour le s'excuser, parce que lui a revu la vidéo aussi du match et il s'est aperçu qu'il avait fait une erreur. Et donc, il a appelé notre président. Ça, j'ai trouvé ça.
C'est très classe, ouais.
Ah ouais, ça en plus je l'ai marqué nous sur notre page Facebook parce que c'est quand même un fait important. On est tous des humains, hein, c'est ce que j'ai bien précisé. On est tous humains à la base, donc nous on n'a pas la VAR bien sûr à notre petit niveau et ça j'ai trouvé super de la part de l'arbitre de s'excuser. C'est un fait de jeu, le point à la ligne, on revient pas et on sait pas ce qui serait passé si vous avez pas marqué parce que effectivement. S'il n'avait pas marqué, il y avait 0-0 à la mi-temps. Mais peut-être que nous, on n'aurait pas marqué non plus deux buts derrière. Donc, c'est un fait de jeu. C'est comme ça. Et puis voilà. Bon, après, heureusement pour nous, c'est qu'on revient au score et on conforte le score en plus. Une petite. Parce que physiquement, les mecs, ils ont galopé. Hein. Faut reconnaître les garçons. Là, j'ai des garçons, je peux vous dire. C'est impressionnant. Hein. Moi, je vous dis, ça fait 5 saisons que je suis avec eux. Je suis enchanté. Il y avait longtemps que j'ai pas vu un groupe comme ça.
Avant de revenir sur le terrain, Johnny, pour les auditeurs qui nous connaissent, enfin qui te connaissent pas, moi je te connais donc ça va. Mais pour ceux qui te connaissent pas, moi j'aimerais connaître ton passé parce que tu as été aussi joueur d'Angoulême. Alors il y en a beaucoup qui parlent de l'AS Angoulême, mais il y a eu aussi des garçons comme toi qui ont joué en national. Est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler ta biographie?
J'ai 62 ans hein, en même temps.
C'est jeune, ça.
On a une heure et demie d'émission devant nous.
J'ai commencé mes armes à l'ASA, effectivement. À l'époque, c'était Yvon Bouton, Paul Legros, Edom qui nous faisaient l'école de foot. Ah ouais. Nous, on tirait les pompes des joueurs qui étaient pros à l'époque, hein, qui étaient en première division.
C'est ça.
Et on avait école de foot le jeudi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas école de jeudi. Donc, moi, j'ai commencé ici. Après, je suis resté pendant 23 ans à Angoulême. Deux infidélités. J'ai fait une infidélité à Cognac, en National 4. Et une infidélité, trois, parce que j'ai eu Soyo aussi en DH avec Daniel Ladoux qui avait été mon coach en Gambardella à l'ASA à l'époque. Et une infidélité à Leroy avec Patou Fugier en division d'honneur. Et j'ai donc eu jusqu'en national, effectivement, à l'ASA. À l'époque, l'équipe A était en deuxième division et nous, on était en troisième division. Et à l'époque, on faisait les rideaux. On faisait les rideaux un qui était mémorable, enfin plusieurs même, parce qu'on allait à Tours, on jouait devant 17 000 spectateurs, on allait à Toulouse, on jouait devant 23 000 spectateurs. À l'époque, c'était comme ça. C'était le charme du foot, quoi. Enfin, c'était de ce niveau-là. Et je peux vous dire, j'ai des moments. Des moments que je n'oublierai jamais de ma vie, comme c'est ce que j'ai dit aux garçons par rapport à la Coupe de France samedi dernier, vous oublierez jamais ce que vous avez fait cette journée-là, quoi. Mais c'est vrai que mon passé de footeux a été quand même riche. Bon, en plus, ouais, j'ai eu des potes à l'époque, que ce soit Christian Farret de l'Étoile, Barades,
Daniel voilà. Solas peut-être.
Ah non, Daniel Solas. Non,
Daniel Solas, c'était un petit peu mon niveau à moi, c'était mon âge.
D'accord.
Que... beaucoup, voilà, beaucoup plus que moi. Moi, en
si
plus,
je peux me permettre, Gianni, si je peux me permettre, je voudrais quand même souhaiter un prompt rétablissement à Daniel Solas qui passe des moments très compliqués. Voilà.
Ah, d'accord.
J'en profite pour passer à l'antenne pour ceux qui l'ont aimé, qui l'ont admiré sur le terrain. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que pour le foot angoumoisin, c'était aussi une belle période. Moi, j'ai eu la chance d'interroger Yvon Goujon une fois, qui était venu à l'hippodrome de la Tourette pour les courses de chevaux, puisque c'était géré par
Hervé Goussard.
Donc j'ai eu la chance de rencontrer Yvon Goujon, qui va forcément raconter l'histoire de la pièce. Et puis c'est vrai que dans les années 70, ouais, il y avait aussi des beaux parcours en Coupe de France, avec il me semble encore une demi-finale. Donc t'as vraiment connu les heures de gloire du foot à Angoulême.
Ah bah oui, effectivement. Bon, moi je jouais pas avec eux à l'époque, hein. En plus, j'ai un souvenir, j'étais cadet, je jouais en honneur. J'étais calé sur classé. Je jouais en division d'honneur à l'époque avec Sam Douala. C'était le coach de l'époque, Sam Douala. Et il y avait bah, Hervé Goursa, il y avait les Berchonis, il y avait
Christian Farret.
Ah non, ça c'est beaucoup plus jeune.
Non, il y avait Christian Farret.
Oui, il y avait Fafa, il y avait les frères Beskevich. Alors moi j'étais le tout potio, quoi. J'étais calé sur cassé, j'étais avec ces garçons-là.
T'as aussi une belle expérience d'entraîneur, Johnny, parce que moi, c'est vrai que nous on s'est connus lorsque tu coachais du côté de Pimoyen, Merpin. Enfin, t'as coaché beaucoup d'équipes au niveau ligue. Je crois que t'as aussi coaché à Ruffec, si je me trompe pas.
Oui, trois saisons à Ruffec, dont un septième tour de Coupe de France contre Angoulême perdu à 93e minute 1-0.
Oui, exact, je m'en rappelle encore. Oui. C'était il y a 10 ans, ça, d'ailleurs.
Ça fait 31 ans que j'entraîne. Hein.
Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission sur Attitude 98.3 pour Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Nord-Charente, et bien entendu le www.attitudefm.com, rubrique podcast. Nous retrouvons Gianni Camus aujourd'hui, donc, et le CS Saint-Michel.
On va revenir sur le terrain. Alors moi, j'ai bien regardé, Gianni. C'est vrai que le début de saison est compliqué en championnat. Hein. Vous avez pris, je crois, 12 buts. Vous en avez marqué un. Où est-ce que ça pêche en défense, ou c'est que les attaques marquent pas
On n'a pas été assez rigoureux, je dirais, sur les deux matchs, même si on a eu des joueurs. Parce que si tu veux, j'ai un groupe d'une vingtaine de joueurs, mais il y a un bloc de 13-14 joueurs qui se dessinent, et effectivement il y a eu un petit manque de rigueur sur le premier match à Confolens, ça c'est une certitude, et sur le deuxième match contre Basso où vraiment on avait ouvert le score et c'est des faits de jeu qui ont fait que qu'on a pris des buts cascades, alors qu'on est beaucoup plus rigoureux que ça, parce que moi en plus j'accentue beaucoup sur le travail défensif de tous les joueurs dans toutes les zones, donc on a un peu pêché là-dessus, ça je reconnais.
Il y a cette alternance entre la Coupe de France et le championnat, et quand la Coupe est terminée, c'est terminé, il faut vraiment se mettre à la tête au championnat. Quel levier toi tu as comme coach justement pour entre guillemets oublier cette belle aventure en Coupe de France, parce que ça restera une belle aventure pour Saint-Mich. Et la deuxième question, c'est quel est un peu ton avis sur cette D1, qui pour moi a vraiment un très gros niveau, parce que il y a quand même beaucoup de clubs qui ont été en Ligue il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi c'est une D1 qui me semble hyper relevée.
Pour effacer alors ce que j'ai demandé aux garçons là, j'avais 16 garçons, mais sur les 12-13 qui ont participé samedi, je leur ai dit de rester mardi. J'ai entraînement tout à l'heure là, mais je leur ai demandé de rester mardi soir chez eux, qu'on se reverrait que jeudi. Il faut absolument qu'ils coupent, qu'ils pensent à autre chose par rapport au foot. Donc on verra jeudi, mais on va surtout travailler jeudi, essayer de se remettre dans le bain, dans le moule. Comme tu l'as dit, c'est très très relevé par rapport aux équipes qui y a dans cette poule, parce que Saint-Yrieix a recruté que des joueurs au niveau régional, qui ont un passé déjà d'il y a deux ans, ils étaient en régional et ils auraient dû remonter l'année d'après. Tu as Montier, tu as également Confolant. Maintenant, tu as Verdi.
Je comprends pas Verdi. Hein.
Ah ben si parce que
moi, cette petite commune de 500 ou 600 habitants.
Ouais, mais des très bons joueurs à Verdi, notamment un que je connais très bien parce que il a joué à la CFC quand il était très jeune. C'est d'accord. J'appelle le petit, mais il est pas si petit que ça maintenant. Il y a Jérémy Manem à Verdi. Ouais, quand c'est des joueurs comme ça, ça fait tout de suite la différence.
Ah d'accord, moi je connais Verdi comme ça, mais je pensais pas que
c'est plus Verdi d'il y a 15-20 ans. En plus, il y a Thibaut Ramos qui est leur attaquant, qui est au club depuis pas mal d'années, qui est ancré à son club et qui bosse beaucoup pour le club. Qui au niveau des jeunes, il a sorti des jeunes, justement, il a récupéré des gamins là de 17-18 ans qui jouent avec lui devant en première, en équipe A, et qui a de la qualité, parce que je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, on discutait là, et c'est ce qu'il me disait, il m'a dit mais il y a un groupe qui a vraiment de la qualité, hein. Donc moi ça ne m'étonne pas. La première, c'est Confolant, avec les 8 qui nous ont passé sur un match.
Bon, après, il y a que 2 ou 3 journées de fait. Hein. Le chemin est encore très long.
On fait la troisième, mais on va à Barbezieux, justement, la troisième journée.
D'ailleurs, les ambitions de Saint-Michel, parce que il me semble que vous êtes, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que vous êtes en D1. Vos ambitions, c'est quoi? C'est le maintien? Comme on dit en football, un maintien le plus confortable possible?
Alors, il faut que j'explique quand même. Il y a une chose à Saint-Michel. C'est un mélange d'anciens et de jeunes. Donc, les anciens qui ont jusqu'à 42-43 ans, hein, faut savoir ça. Hein. Des garçons qui galopent autant qu'un gamin de 20 ans. Hein. Donc, les mecs, ils n'ont pas l'ambition d'aller jouer au-dessus. Ce qu'ils veulent, eux, c'est se prendre du plaisir à être ensemble le mardi et le jeudi et le week-end, le samedi soir, parce qu'on joue beaucoup le samedi soir au stade. Et après, pour eux, c'est un loisir, c'est une passion en même temps, mais ce qu'ils veulent, ils veulent pas se prendre la tête. Et moi, je les comprends. Parce que moi, enfin, c'est ce qui m'a plu un petit peu dans le projet il y a 5 ans quand je suis arrivé au club. Parce que moi, j'ai dit, à mon âge, je ne veux plus faire de régional, je ne veux plus me taper 3 heures de route.
Oui.
Dans un sens ou dans l'autre. C'est fini.
T'as rejoint le club il y a 5 ans. Et puis, donc, on parlait de Saintes, on va parler de Brive, bien sûr, parce que finalement, on a donné que l'issue. Mais on va parler un peu du match. Oui. Il y a aussi, moi je me rappelle, j'étais venu il y a 2 ans, je crois, voir je crois que c'était un 3e tour de Coupe de France contre Cognac. Bon, il y avait une large défaite, mais bon, vous avez joué quand même contre Cognac, qui était déjà en N3, il me semble, à l'époque. Donc,
ils étaient premiers en R1.
Oui, ils étaient, c'est l'année où ils sont montés en N3, du coup.
Voilà. C'est ça.
Enfin, en tout cas, recevoir Cognac, qui est la 2e grosse équipe en Charente, c'était déjà, même si c'était pas le tour avec les maillots, c'était déjà vraiment une très belle affiche.
Tout à fait, dans le sens où c'est vrai que sur ce match-là, on est passé complètement à travers, on avait pris 6.
Oui.
Mais la déception avait été grande dans le sens où les garçons, ce qu'ils recherchaient, c'était avoir les maillots. Donc on a insisté, on a réussi à les avoir. Mais c'est vrai que. Et puis Cognac avait une grosse équipe, avait une très très grosse équipe avec leur coach là.
Olivier Modeste,
tout à fait. Donc non, ils avaient une très très grosse équipe.
Bon, bah alors faut serrer les fesses jusqu'au 3 premiers tirages, espérant des tirages positifs, puis après tout donner sur le 4e tour. Mais bon, le tirage n'a pas forcément été hyper positif en tir enceinte. Et puis, vous avez quand même fait l'exploit. Donc les maillots sont à Saint-Michel, bravo. Avant de parler de Brive, j'aimerais quand même parler d'une connaissance commune. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Erwan. Erwan qui joue donc en équipe réserve sur à Saint-Michel et qui filme les matchs, filme beaucoup de vos matchs et ouais. J'imagine que pour vous c'est d'une part ça permet de revoir les matchs en vidéo, ce qui pour un club de première division est assez rare et ça vous permet aussi d'avoir une belle visibilité.
Mais c'est vrai que nous après le match ça nous arrive de le revoir collectivement, mais souvent de fois c'est individuellement je leur dis à tous, hein, je leur dis mais regardez, on a cette chance là qu'Erwan puisse nous filmer les matchs, regardez vos prestations et c'est toujours intéressant. Et justement ils le font et bon après ils sont assez grands pour analyser si on fait bien ou pas bien. Même moi si je leur dis votre prestation est ceci, votre prestation est cela et voilà. Mais il est intéressant individuellement qu'il regarde les vidéos. En même temps, c'est une petite source de motivation, mais c'est quand même intéressant parce qu'ils peuvent corriger éventuellement s'il y a des choses à corriger. Surtout à notre petit niveau, il y a toujours des choses.
Ça permet d'analyser la performance, ouais. C'est ça, Gianni?
C'est ça, tout à fait.
J'imagine que d'avoir un membre comme Erwan au sein du club, c'est vraiment une plus-value. Enfin, moi, je le connais depuis très longtemps, Erwan, et c'est quelqu'un qui est passionné, passionné par sa mission, passionné par la LJ-Sorio aussi. Ouais. Et j'imagine que d'avoir un Erwan au CS Saint-Michel, c'est forcément une grosse plus-value pour le club.
Ah, mais ça, c'est considérable. C'est un garçon, comme tu le dis, qui est passionné, mais il n'est pas passionné que par Saint-Michel ou par la LJ-Sorio. Il est passionné par le foot. C'est un garçon qui est féru toute vidéo, de tout match étranger, nationaux et féminin comme masculin hein, d'ailleurs. Et je sais même, je crois qu'il intervient des fois sur RMC ou enfin c'est vraiment un grand passionné. C'est un charmant garçon en plus qui est d'une discrétion. Il y a beaucoup de clubs, je sais, qui aimeraient avoir un garçon comme ça dans leur club à disposition pour pouvoir s'en servir.
Et puis c'est vrai qu'en plus, Erwan s'est reconverti il y a quelques années maintenant dans la course à pied et je sais qu'il fait pas mal de trail notamment, donc encore une corde à son arc en plus.
Une corde à son arc, effectivement.
Quand tu dis, Gianni, l'objectif c'est se maintenir, d'accord? Mais ouais, dis également que tu as des joueurs d'expérience, mais qui sont également âgés. Est-ce que derrière, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils seront derrière la main courante, est-ce que derrière, tu as quand même la possibilité de pouvoir, dans l'année prochaine ou dans les 2 ans à venir, s'ils arrêtent, les moyens d'avoir quelques joueurs?
Moi, ça fait 5 ans que je suis au club et ça fait 5 ans que je tourne pratiquement avec le même groupe. Donc, c'est des garçons qui, tous les ans, disent « Oh, j'ai raccroché cette année ». Sauf que ces garçons-là, à l'âge où ils sont, ils viennent à l'entraînement en début de saison. Ils viennent s'entraîner. Ils laissent souvent de fois leur place en disant « les jeunes vont prendre ma place ». Mais malheureusement, le garçon, il s'accroche et il n'y a aucun jeune derrière qui est capable de reprendre la place.
À un moment donné, Gianni, c'est
pas possible. J'en suis conscient. Mais comme je dis toujours, de toute façon, notre recrutement, nous, on a toujours 2-3 nouveaux joueurs qui arrivent chez nous. Mais c'est le recrutement, c'est pas le mien parce que moi vu mon âge maintenant, je connais plus grand monde. Mais
c'est les copains des joueurs.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. En plus, il faut savoir quand même, je vous précise une chose. Il faut savoir que pendant la pandémie, nous ne sommes pas arrêtés de nous entraîner. C'est-à-dire tous les samedis à 15h jusqu'au couvre-feu qui était de 18h 19h, je ne sais plus. On s'entraînait et j'avais 30 à 35 mecs tous les samedis au stade. J'ai pas voulu couper ce lien social qui pour moi est hyper important et pour moi il était très important et je pense que pour eux aussi parce que vu le nombre à chaque fois qu'il y avait et je sais qu'il y a des clubs qui sont pas entraînés qui n'ont pas voulu prendre le risque de s'entraîner mais nous on n'a pas pris de risque parce qu'on a fait les gestes de barrière, on a respecté beaucoup de choses. Donc on n'a pas eu de cluster, on a eu peut-être cette chance-là, hein, c'est sûr. Mais ça a permis de pas couper ce lien.
Finalement, d'avoir un entraînement avec 35 gars en temps de Covid, c'est pas tous les clubs qui peuvent s'en targuer.
Alors je faisais des photos tous les samedis hein, pour la page Facebook du club. Et tous les samedis, on voyait qu'il y avait énormément de monde, quoi, entre 30 et 35.
Et puis tu faisais référence aux anciens, donc forcément, moi je vais saluer. Moi je connais un peu Saint-Michel puisque j'avais des potes qui jouaient en réserve, notamment Erwan, notamment Cédric Vernion qui est pratiquement une légende du côté de Saint-Michel et qui je crois que c'est votre capitaine et en plus il a marqué son premier tir au but contre Brive. Mais il y a aussi quelques jeunes. Moi je connais très bien aussi Alex Payard, l'attaquant, Alexis Guérin. Il y a quand même quelques jeunes qui poussent derrière les anciens.
Ah oui, mais Alex Payard, c'est un garçon qui est avec moi depuis 5 ans, quand je suis arrivé au club. Alors, c'était un numéro 10, hein, à la base. Moi, je l'ai mis numéro 9, c'est un garçon qui a un impact sur une défense adverse, c'est impressionnant, hein. Impressionnant. Après, je peux citer les 13 ou 14 joueurs, hein, ou les 15 ou 16 joueurs qu'il y avait avec nous, parce que même samedi, j'ai demandé à un joueur qui était blessé depuis Confolan, qui était un titulaire indiscutable, j'ai demandé qu'il vienne avec nous et ça a été mon deuxième gardien, même s'il n'est pas gardien de but, j'ai voulu qu'il participe à la fête. Bon, le gamin m'a remercié hein, parce qu'il a trouvé ça super gentil, mais j'ai dit non, c'est normal, tu vas participer au premier tour d'avant, tu t'es blessé, tu as droit toi aussi à voir ton jeu de maillot, même si c'est pas le rouge, tu auras un jeu de maillot de gardien de but.
En parlant de Payer, est-ce que son papa c'était pas le gardien de but de Saint-Michel dans le temps?
Non, ça devait être son grand-père.
Ah d'accord.
Parce qu'il est cousin avec le comment il s'appelle son prénom, le Payer de Nantes qui a été à Cognac.
Oui, Payer. Oui.
C'est ça. Lolo, voilà. Il est cousin avec Loïc.
Tu parles de Loïc Payer, juste une petite parenthèse. Loïc Payer que je connais très bien, de son passage à la CFC. Tu sais ce qui devient Loïc Payer, ou est-ce que t'as eu des nouvelles récemment, ces dernières années? Parce que c'est vrai qu'il était parti à Cognac et j'avais un peu perdu de vue.
Alors, il est venu, je sais plus si c'est un an ou deux ans, voir son cousin jouer à Saint-Michel. Lolo, il est sur Cognac pour y travailler chez NC. Mais il ne fait plus rien, hein. Ou alors il fait du foot loisir, mais il me semble qu'il ne fait plus rien, mais il est sur Cognac, hein.
Pour revenir au terrain, j'ai vu que l'équipe B, alors on parlait d'équipe première d'un certain âge, mais je vois que malgré les vétérans, l'équipe B se comporte pas trop mal puisqu'ils sont aussi dans le classement des trois premiers.
Oui, avec
c'est bien
notre équipe de division. Alors si c'est un point noir qu'on va essayer de corriger, essayer de faire qu'il y ait moins d'écart entre l'équipe A et l'équipe B, quoi.
Et oui, ça, c'est vrai que ça, deux divisions d'écart, c'est bien au final.
Là, malheureusement, on a encore un trop grand écart, et tous les ans on essaie, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas réellement à trouver quelqu'un. C'est pas simple, hein. C'est pas simple pour trouver quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Bon, toute la semaine, on se débrouille. Enfin, moi, je me débrouille. J'ai même maintenant quelqu'un qui me donne un coup de main, hein, qui s'appelle Mickaël Ferré, qui était joueur de l'équipe C l'année dernière. Et je lui ai posé la question s'il voulait me donner un coup de main en tant qu'adjoint, entre guillemets. Et il fait ça parfaitement bien. Bon, il est là une semaine sur deux parce qu'il bosse de nuit, mais c'est un garçon qui me dépanne beaucoup. Après, il y a un coach pour la B, mais qui a du mal à se libérer par rapport à son travail. Il y a un coach pour la C qui lui aussi est embêté par rapport à son travail. Donc c'est pas simple.
Et au niveau des entraîneurs, Jenny, tu fonctionnes comment? Est-ce que c'est le groupe de la première s'entraîne d'un côté et la B et la C de l'autre? Ou alors tu coaches aussi certains joueurs de la B sur les entraînements? Comment ça se passe au niveau de votre organisation?
Alors il est simple. Début de saison, on a 35-40 joueurs. Donc on fait un entraînement commun pendant trois quarts d'heure, une heure. Du travail commun avec les deux ou trois coachs qu'il y a ensemble, et après moi je prends mon groupe pendant une heure et je travaille avec mon groupe, un groupe de 18-20 joueurs, je travaille avec lui, et après je laisse le groupe aux deux autres coachs. Et en saison normale, le mardi soir on fait une séance commune de trois quarts d'heure, une heure. Et après, moi, je prends mon groupe et le jeudi, normalement, je prends mon groupe tout seul. Et
mais vous avez pas de jeunes à Saint-Michel? J'ai pas vu de U16, U13.
Alors, depuis cette année, effectivement, le club a beaucoup travaillé sur les féminines. Donc, on a une en régionale. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai remplacé Stéphane Fargeau il y a 5 ans, qui avait l'équipe A masculine et qui s'est mis sur les féminines et qui les a fait monter. Et qui a fait un beau parcours en coupe après, en coupe départementale. Oui. Donc, Stéphane Fargeau a arrêté cette année. Il a été remplacé par Lionel Badilla. Et il faut savoir aussi, c'est que on a beaucoup d'équipes féminines. On a des U16 en régional, U8 en U8, en foot à 8, foot à 8 en district, et oui, foot à 11 en régional R2. Il y a du monde parce qu'on est 200 licenciés quand même, hein. Faut savoir qu'on est 200 licenciés.
Oui, mais ce que je comprends pas, Jeannie, c'est que certes il y a l'équipe féminine qui a un effectif assez fourni, mais ce que je comprends pas, c'est qu'au niveau des jeunes à Saint-Michel, oui, c'est quand même l'avenir. Et tu me parlais de vétérans en première, en B, bon, c'est aussi une catégorie d'âge, mais les jeunes, personnellement, je les vois pas sur les championnats.
Non, mais c'est vrai, c'est depuis 2 ans, on a eu un gros trou. Alors, c'est Jean-Baptiste Bouillet qui s'occupe de l'école de foot, mais pour différentes raisons, Jean-Baptiste a été obligé d'arrêter. Mmh. Ça a perturbé pas mal notre école de foot. Et malheureusement, cette année, on a perdu tous les jeunes, toutes les catégories de jeunes. Ça a été très compliqué de trouver un éducateur. Bon, il y a une fille qui s'en est occupée là, Marine, qui a voulu lancer le. On lui a demandé d'essayer de se mettre dans l'école de foot. Malheureusement, la pauvre, c'est pas évident. Hein. C'est pas dû à elle parce que c'est une fille courageuse. Donc malheureusement, elle a pas pu réussir à remonter cette école de foot. Et là, on est en perte de vitesse, ça c'est sûr, par rapport à l'école
de foot. C'est un manque de bénévolat, c'est un manque ça vient du Covid, bénévolat, c'est un ensemble.
Oui, c'est un ensemble. Effectivement, on a pas beaucoup, enfin on a des dirigeants, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de demander aux dirigeants parce que en même temps le club fait beaucoup de, on fait beaucoup de d'extra foot, c'est-à-dire que on fait des lotos, on fait des brocantes, on sollicite beaucoup les gens. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Monsieur Bruno Moreau là qui est le président bosse beaucoup dans ce sens-là, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident.
Quand c'est une commune jeune, Saint-Michel.
Donc tous les ans on demande, comme tous les clubs, on demande des dirigeants. Et bon, voilà. Le bénévolat avec en plus avec la crise, la pandémie là, on a perdu que ce soit toutes les associations, tu le sais très bien, d'aider.
Oui. On a perdu du monde. Et vous avez perdu en effectif depuis 5 ans?
Non. Non, mais non, on tourne à 200 licenciés depuis 4 ans.
C'est pour cette raison que ma question, peut-être que je l'ai mal posée, avec 200 licenciés, je ne comprends pas, enfin c'est mon point de vue personnel, hein, moi je ne suis pas dans le club, qu'il n'y ait pas une équipe de jeunes de U16 ou de U13, c'est ça qui surprend sur l'ensemble.
Même là, école de foot, hein. Nous école de foot, plus rien, on était à 6-7 gamins là. Dernièrement, on est obligé d'arrêter l'école de foot, donc on est obligé de dire aux gamins, allez voir dans d'autres clubs parce que on n'a pas les moyens, d'éducateurs, malheureusement ça s'est pas fait comme ça aurait dû se faire, donc là de toute façon on va le payer, ça j'en suis conscient.
Oui, dans quelques années il y aura forcément un trou générationnel.
Oui, tout à fait.
Moi, j'aimerais quand même insister sur l'équipe féminine parce que c'est quand même l'une des forces du CSSM, c'est qu'il y a une équipe féminine de très bon niveau régional. Je pense que bon, il y a différentes équipes féminines qui sont montées en Charente, notamment la dernière à la CFC qui fait parler d'elle en Coupe de France, mais d'avoir une équipe féminine en région, déjà c'est assez rare dans notre département.
Oui, d'autant plus que Stéphane Fargeau qui est à la base de ça. De remonter cette équipe féminine a bien recruté, en plus il avait recruté des filles qui avaient le niveau régional, hein. Là malheureusement encore cette histoire de pandémie, en plus Stéphane arrêtant, il y a quelques filles qui ont arrêté, donc c'est vrai que ça va être un peu plus, ce que je disais à Lionel l'autre jour, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'elles auront pas de problème pour se maintenir quand même,
hein. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu, il me semble, il y a 2-3 ans, une finale de Coupe des Charentes contre une équipe de Charente-Maritime.
C'est ça, Coupe des deux
Charentes. Erwan avait filmé d'ailleurs, il me semble, encore oui. Lui, toujours lui.
Oui, mais il filme le dernier match de Coupe de France des filles dans les Deux-Sèvres, là, je crois, il y a 15 jours. C'est Erwan, il a pris sa voiture, il a été les filmer, quoi.
Ouais.
On voit tout ce qu'Erwan peut faire au niveau du club.
Ça veut dire que lui aussi, il maintient les effectifs.
Quelque part, il participe.
Eh oui.
Tout à fait. On va voir qu'il n'est pas là la semaine.
Oui, parce qu'il vit sur Paris.
Voilà, il vit sur Paris. Enfin, sur Paris, il vit sur Paris.
Ah oui, ça classe son personnage.
Tout à fait.
Et le connaissant très bien, c'est vrai qu'il fait pas les choses à moitié. Et puis c'est forcément compliqué de catégoriser, de dire c'est le fan numéro un ou c'est le plus grand fan, parce qu'au final, c'est quand même des choses qui sont très. Moi, je le dis, mais c'est mon point de vue à moi et c'est sûrement pas la vérité, mais c'est en tout cas l'un des plus grands fans de la JSOIO, parce qu'il fait aussi des directs à JSOIO avant match, après match. Il est très critique et très connaisseur de la JSOIO, donc. Il est impliqué à la fois au CSSM et puis à la fois aussi par sa passion du foot féminin dans les filles de Soyo. Puis là aussi pas mal suivi la CFC il y a une dizaine d'années. Donc oui, effectivement, on a affaire à un très grand passionné.
Oui, tout à fait.
Alors j'en parle peut-être beaucoup d'Erwan, mais je pense que c'est aussi important de mettre en lumière des personnes comme lui qui vraiment, on parlait tout à l'heure de bénévoles qui s'investissent. Bah, lui, il s'investit vraiment pour le coup.
Ouais, oui. Et je vais te rejoindre là-dessus, sur le fait que des gens comme Erwan, ils sont peu nombreux, et ces gens-là, ils font de sorte de ne voilà, il regarde pas que les grands, il regarde aussi les petits, et ça c'est très important.
Comme toi, Dédé, comme toi.
Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission sur Attitude, Attitude 98.3 pour Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pardon, pour Nord-Charente, et bien entendu le www.attitudefm.com, rubrique podcast. Nous retrouvons Gianni Camus aujourd'hui, donc, et le CS Saint-Michel. André, c'est à toi.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'équipe Fagnon, puisque là, alors vous allez rentrer certainement en Coupe du Centre-Ouest ou en Coupe Charente.
Ah, alors la Coupe Aquitaine, c'est plus la Coupe du Centre-Ouest, t'as tenu
compte. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais.
La Coupe Aquitaine n'existe plus. Oui, ils ont enlevé la Coupe Aquitaine parce que justement, il y a au niveau du calendrier, ça devenait compliqué.
Bien sûr,
donc
oui.
Nous, il nous reste plus que la Coupe Charente, qui commence au mois de décembre, qui commence le 12 ou 15 décembre, je sais plus, le premier tour. Déjà, on sait contre qui on tombe et on joue à l'extérieur. Donc ça, mais la priorité en ce moment, c'est le championnat.
Oui. Moi, je suis convaincu. Oui, parce qu'il y a une situation à, il y a une situation à redresser.
Ah oui, vite fait là.
Ah oui, plus que vite fait. Oui. Il va falloir mettre un pansement sur l'hémorragie rapidement.
Où vous situez pour cette année? Bon, alors, est-ce que vous avez, bon, c'est le maintien. Est-ce qu'il y a des équipes, excepté les équipes que l'on a évoquées du haut de tableau? Il y a quand même des équipes que vous allez rencontrer qui sont à votre niveau, voire même au-dessus.
Ben, je dirais aujourd'hui, je ne sais pas trop parce que on est un peu dans l'inconnu là, par rapport aux deux matchs qu'on a fait de championnat où on est passé au travers. Donc, on a besoin de se remettre un peu la tête à l'endroit par rapport à ce qu'on vient de vivre dernièrement. Et puis après, ben, je pourrais te le dire si on est capable de rivaliser en championnat. Mais bon, j'ose espérer que oui, parce que vu ce qu'ils ont pu proposer les garçons sur les deux week-ends dans le couple. C'est quand même formidable. C'est des mecs.
Oui, c'est ça.
Des mecs.
C'est bizarre.
Là, ils se sont dépouillés. Parce que l'intensité, bien sûr, n'est pas la même hein, qu'un championnat de première division et rencontrer une équipe de R2 ou R1. Je peux vous dire que les déplacements, et les allers-retours, les changements d'orientation et tout ça. Et techniquement, après, il faut vraiment être concentré. Donc, ça demande beaucoup de. C'est psychique et physique à la fois. Ça demande beaucoup de travail, et là ils l'ont parfaitement fait hein, sur les deux matchs là, c'est impressionnant. Et
ouais, je pense que si vous avez mis six buts à Saintes et si vous avez tenu en échec Brive qui explose tout le monde hein, je le répète depuis le début de saison, mais c'est impressionnant les scores qu'ils mettent. Et puis je pense qu'ils vont monter en, bon, même si on est que au mois d'octobre hein, mais je pense que ils font partie quand même des gros candidats à monter en N3. Si vous avez tenu cette équipe en échec, il y a pas de raison que ça se passe mal en championnat.
Non, bien sûr. Non, mais j'en suis. Même eux, maintenant, avec ce qu'ils ont réalisé, je pense qu'ils en sont conscients. Il y a pas tout. Et puis, sur les, ça fait 3 ans qu'on est en première division. La première saison, on a joué le haut de tableau. Bon, là, on n'a pas fini les 2 dernières saisons, mais bon, on n'était pas trop mal classé non plus quand les saisons se sont arrêtées. Donc, et on faisait des parcours en Coupe de France jusqu'au 3e tour au moins. Donc on avait l'équipe pour se maintenir sans problème. Et là, ce qu'ils ont réalisé, non, mais il n'y a pas photo.
Gianni, quand tu regardes ton effectif, quels sont pour toi les points forts et les axes de travail qu'il y a encore?
Les axes aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, hein. Mmh. Les axes, ça va être justement ce que je disais tout à l'heure, je vais me répéter, mais sur le travail de concentration défensive. Mmh. Parce que... mes attaquants travaillent beaucoup. Mes attaquants travaillent beaucoup. Mais défensivement, on doit rester hyper concentré derrière. Et milieu, c'est pareil. Et donc là, il va falloir qu'on se remette dedans. Je pense que c'est surtout psychologique. C'est pas physique ou même technique, parce que les gamins ont de la qualité technique. Ils ont les deux pieds. Ils savent faire une passe longue, les contrôles orientés. Enfin, la base du foot à notre petit niveau. Donc, ça va être un problème de concentration.
Oui, donc c'est des choses qui sont très perfectibles et qui, si c'est de la concentration, c'est pas un défaut de qualité du joueur technique physique. Non. C'est vraiment perfectible dès le prochain match là. Si on reste concentré, ça peut le faire. Parce que je pense que pour vous, le plus important et le plus compliqué, ça va être justement de gagner ce premier match de championnat, et ce qui va peut-être vous débloquer et faire servir de déclic.
Voilà, exactement. Alors. Est-ce que ça sera samedi? Je sais pas, parce que il va falloir quand même qu'ils zappent ce qu'ils ont vécu, parce que là, la déception était immense samedi dernier après match. Il faut savoir que la déception était immense. Les mecs étaient abattus. parce que à 2-1 sur quand on marque le deuxième but, et Alexis Hayes qui le marque sur penalty. D'ailleurs, il remet son penalty en plus après dans la série. Et je peux vous dire, les mecs étaient remontés comme des pendules. Ils étaient remontés comme des pendules. Donc, il y a eu un fait de jeu. Bon, bah, il y a eu une petite perte de balle qui est pas habituelle. Et puis, bah voilà. Et puis là, ça fait mal. Hein.
Je sais pas s'il y avait Oussama Belfoul en face de vous, mais s'il était là, même s'il a un âge quand même qui commence à être avancé, ça reste l'un des meilleurs buteurs du championnat aérien, donc ça pardonne pas.
Non, non, non. Ils avaient un ou deux joueurs, je crois, qui étaient absents, mais tout le reste du groupe, parce qu'en plus, ils ont une R3 qui tourne, qui avait gagné le week-end d'avant 5-0 à Saint-Paul-de-Léon. Et donc, ils ont une R3 qui tourne. Donc, ils ont pas le souci, les différences de division, il n'y a pas trop, hein. Par rapport à nous.
Complètement. Eux peuvent aligner un groupe de 20 joueurs qui contre une D1 tient le choc, tandis que vous, c'est vrai que s'il y a 2-3 absents, ça se voit tout de suite.
La différence est là, effectivement.
Ouais. Et d'ailleurs, on va faire un petit inside. Donc on est à la fin du match 2-2. On est il y a plus de prolongation en Coupe de France, c'est directement la séance de tir au but. Moi j'ai surtout observé un peu parce qu'Erwan était vraiment très proche de vous, donc on a pu entendre ce que vous disiez. Et là, Gianni, tu désignes 5 joueurs et tu leur dis, peu importe le numéro, c'est ces 5 joueurs qui vont. Comment ça se décide ça? Parce que des fois, on demande aux joueurs qui veulent y aller. Enfin, c'est parfois compliqué.
Eh ben, alors à chaque séance, parce que on a déjà gagné des séances de pénaux en Coupe de France, en Coupe Charente, on a gagné des séances de pénaux sans problème. Et à chaque séance, ils le savent, les garçons. Alors par contre, en match, j'ai toujours un attitré, voire deux attitrés. Et après. Donc les deux attitrés en match sont toujours dans la liste des 5 tireurs, sauf que j'en ai pas 6. Et là il s'avère que j'ai un garçon, le garçon qui était blessé, qui est mon tireur attitré à chaque fois, qui était pas dans la liste. Bien sûr, il était sur le terrain, mais il était pas dans la liste, étant blessé, étant en plus deuxième gardien. Et là je leur dis à chaque fois 5 noms. Je cite 5 noms. Mais après, je leur laisse libre le choix de choisir leur premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça, c'est à eux de choisir. Je veux pas leur imposer.
Oui, d'ailleurs, si tu avais été joueur, tu aurais choisi quelle position, Gianni? Parce qu'on sait très bien que de commencer, il y a la pression, parce qu'on entame le bal et qu'il faut quand même bien démarrer une séance de tir au but. Mais on sait très bien qu'il faut aussi mettre le cinquième pratiquement le meilleur, parce que ça peut être le décisif, mais parfois, on n'arrive pas jusqu'au cinquième.
Ouais, c'est ça. Alors, mon numéro 1, c'est toujours le capitaine, il le sait. Mon numéro 1 dans la série, hein. C'est Alexis Hayes qui a mis le penalty pendant le match, qui était numéro 2. Et après, ça s'enchaîne, quoi. Mais c'est eux qui ont décidé de la numérotation du tireur. Et ils l'ont très bien fait. Sauf qu'après, effectivement, quand il y a un pénalty coupé, on est déçu.
C'est le gardien qui l'arrête ou il est coupé?
Oui, le gardien fait de beaux arrêts.
Ouais. D'accord.
Oui, parce que tu leur dis à un moment donné, cadrez les gars, cadrez, parce que forcément pour marquer, il faut déjà cadrer. Donc en cadrant, on fait déjà une bonne partie du chemin. Et toi, à titre personnel, tu aurais préféré prendre le premier ou le dernier tir si t'avais eu le choix? Si t'avais été joueur ce week-end, t'aurais préféré tirer en premier ou en dernier?
En dernier.
Et pour quelle raison, dernier?
Parce qu'il faut toujours un premier et un dernier.
Ah, mais ça, j'ai compris. Ça, c'est comme au vélo.
Mais psychologiquement, il en faut un bon en numéro 1 et un bon en cinquième. Et comme disait Christian tout à l'heure, normalement, on doit aller jusqu'au bout des 5 pénaux, des fois, voire plus. Mais des fois, ça s'arrête avant. Et le cinquième, il n'a pas tiré.
Peut-être le cinquième peut être plus libéré si, par exemple, vous menez au pénalty.
Ah, ben oui. Il peut être plus libéré par rapport à s'il est 4 autant. Enfin, ça dépend.
Il a aussi la pression de conclure au final, parce que Cinemark, c'est la qualif, mais il ne faut pas que le pied tremble.
Et oui, ça, c'est mentalement. De toute façon, c'est mentalement.
Oui.
Il faut être hyper costaud.
On dit souvent que c'est la loterie, mais il y en a certains aussi qui disent que c'est un exercice technique, donc il n'y a pas forcément le hasard à une part, mais comme dans tout le football. Mais pour toi, c'est plus la loterie ou c'est quand même un exercice technique où on peut maîtriser son geste et marquer?
Un exercice technique, effectivement, Christian. qu'on travaille, nous, à chaque séance, pratiquement à la fin de la séance, on fait une petite séance de pénaux systématiquement. Avec, à la fin de la séance du jeudi soir, celui qui ne le met pas ou il paye un coup aux autres, ou voilà. Donc on met une petite carotte au but.
Est-ce qu'il y a un joueur qui s'occupe du gardien de but?
Alors,
moi, quand j'ai joué, on s'occupait de moi, mais bon, mais ça a peut-être changé. Ouais.
On avait quelqu'un qui s'occupait des gardiens jusqu'à présent. Là, il y a normalement cette semaine, il y a une séance spécifique avec les 3 ou 4 gardiens du club, mais c'est pas moi qui la ferai. C'est des joueurs qui se sont proposés pour la faire. Parce que moi, j'ai du mal à tirer dans le ballon maintenant, vu que j'ai des soucis de santé et j'ai du mal à marcher.
Bien sûr. Oui.
Mais c'est pour ça que j'ai quelqu'un avec moi maintenant pendant les séances.
Oui, j'ai compris. Saint-Michel, c'est encore pour toi l'année prochaine?
Alors, je me suis posé la question cette année, c'est une bonne question, parce que je me suis posé la question cette année, de savoir si je faisais pas mon année de trop. Et j'ai posé la question aux garçons en fin de saison dernière. Oui. Ils m'ont dit non, Jenny, tu restes avec nous. Donc, là, je suis en, parce que, alors, il faut savoir que moi, comme ces garçons me le rendent bien, moi, ça me fait du bien, me fait du bien à la tête d'être dans ce contexte avec, sur le terrain, aussi bien les séances d'entraînement que les matchs. Moi, ça me fait du bien à la tête et j'en ai besoin. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour quelles raisons.
Moi, j'aimerais bien que tu précises pour quelles raisons, parce que moi, je ne l'ai pas entendu pendant l'émission. Enfin, je suis admiratif sur le travail que tu fais, mais j'aimerais que les auditeurs sachent que même par rapport à une maladie, on peut être encore sur le bas côté et diriger une équipe. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as aujourd'hui?
Alors, effectivement, depuis 3 ans, parce que moi, je suis retraité depuis 2 ans de la fonction publique territoriale, hein, je travaille au département, au bureau d'études, et depuis 3 ans, j'ai la maladie de Charcot. Donc, cette maladie, bien sûr, qui est pas très connue, mais que vous avez pu voir, je crois, il y a un mois et demi, 2 mois de ça, sur la Charente Libre, ils ont fait un papier. Ils sont venus, d'ailleurs, me poser la question, parce que j'ai ma fille qui a créé une association de la maladie de Charcot, pour essayer de récupérer des fonds pour cette maladie. Donc, elle s'appelle en plus GCSLA. GSLA, cette association. Et donc, cette maladie, malheureusement, quand je suis allé à Limoges, d'ailleurs, dernièrement, vous avez pu le constater, il y a eu Jean-Yves Lafesse qui est mort de cette maladie, de la maladie de Charcot. Vous avez Gilles Rabé, qui est ancien rugbyman du SCA, pas du SA15 hein, à l'époque, hein, du SCA, rugby, en est décédé. Il y a quand même cette maladie qui est méconnue, mais qui est bien là pour vous faire chier, excusez-moi le terme. Il faut savoir que cette maladie, quand vous arrivez voir le professeur Pouratier Limoges et qu'il vous dit voilà, vous n'en avez pas pour longtemps, il vous met à l'aise, hein, ce qui est logique. Hein. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 2 ans, ça peut durer maximum 10 ans. La finalité, c'est le fauteuil roulant. Donc là, moi, je marche très très mal depuis 3 ans. La maladie, pour l'instant, je touche du bois, elle n'évolue pas. Et je peux vous dire que si elle n'évolue pas, je pense qu'il y a une grande partie. Bon, j'ai ma femme qui est là, qui me soutient beaucoup, et elle aussi qui est pas aidée aussi. Elle a son lot de maladies aussi. On est tous les deux dans le même stack. Et par contre, ce qui me sort de cette maladie, c'est justement de m'occuper d'un club de foot et de rester sur le terrain, d'animer mes séances, de conduire mes causeries et de m'occuper de mes garçons sur le bord du terrain. Et ça, je peux vous dire, ça me vide la tête et ça fait énormément de bien. Il faut savoir que je ne pense pas du tout à la maladie et je peux vous dire que ça, c'est hyper important.
On t'admire, t'as toute notre admiration, Gianni.
Non, c'est pas. Non, parce qu'il y a des gens qui sont dans des fauteuils roulants, qui font des choses incroyables. Mais chacun essaie de se dépatouiller, de sortir de ce bourbier. Et il y a des cancers. Et je peux vous dire, j'ai ma frangine qui est en plein dedans en ce moment. C'est pas évident non plus. Mais il est vrai que le moral a une importance sur ces putains de maladies. Et ça, excusez-moi encore hein, de ce terme. Heureusement, il faut appeler un chat un chat. Et je peux vous dire que si on n'a pas ce mental, pour se sortir de ça, ça sera très très compliqué pour nous, voilà. Donc j'en suis conscient, et le foot aujourd'hui, bon, je suis un passionné, hein. J'ai toujours été, je suis tombé dedans comme Astérix et Obélix, mais il est vrai que ça me permet de continuer à rester debout.
Et ça, les garçons, ils sont près de toi. C'est ta famille là-bas, Saint-Michel.
Ah non, mais c'est ma. Ah, alors, effectivement, on peut dire ça. C'est ma deuxième famille.
Oui, enfin,
excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est impressionnant cette dynamique qu'ils peuvent me donner. Et je leur ai dit déjà. Quand c'est arrivé, j'aurais expliqué ce que j'avais. J'ai dit, moi, en plus, j'ai pas l'habitude, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, que ça plaise ou pas, mais je le dis. Et les garçons ont été vis-à-vis de moi super agréables, enfin ça a très bien passé, quoi. Donc en même temps, ils me le rendent. Par rapport à ce qu'ils font, ils me le rendent. Eux, ça les rend heureux, et moi encore plus. Donc c'est obligatoirement.
C'est du donnant. Sur le terrain, ça leur donne un petit supplément d'âme à tes joueurs. Lorsque physiquement c'est peut-être plus compliqué, allez, on se dépouille pour le coach.
Oui, c'est possible. Je dis pas que c'est ça, mais c'est possible.
On voudrait te remercier déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comme c'est de tradition, on va laisser le mot de la fin à notre invité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gianni?
Eh bien, d'abord, je vous remercie de mettre un petit coup de projecteur sur le club de Saint-Michel, le club de foot de Saint-Michel. Et j'aurais aimé, si c'était possible pour moi, citer les 16 noms qui ont participé au dernier match contre Brive. Alors, il y a numéro 1, c'est gardien de but, Johnny Autan. Et numéro 2, c'est Théo Lavie qui arrive de Touvre, de 5e division. Numéro 3, c'est alors on l'appelle Bambi. Il arrive de Châteauneuf. Il était déjà il y a 2 ans avec nous. Numéro 4, c'est Cédric Feniou, 43 ans. Numéro 5, c'est Cédric Vargnon, capitaine, qui a 45 ans. Thomas Dezafi, qui est mon deuxième capitaine, qui est le numéro 6, qui est le trésorier du club. Numéro 7, c'est Alexis Hayes, qui est le secrétaire du club, qui est notre tireur penalty à titrer aussi. Numéro 9, c'est Alex Payer. Numéro 11, c'était David Delage, un garçon qui peut jouer à tous les postes. Numéro 12, c'était Jérémy Vargnon, qui lui normalement est un titulaire indiscutable, mais bon, avec l'histoire du Covid, ça l'a un peu freiné. Numéro 12, c'est Raphaël Vergnon. Faut savoir que les deux frères plus le père étaient sur la photo de l'équipe en Coupe de France. Numéro 13, c'est Gaëtan Lavie.
Le père qui joue avec ses deux fils.
Voilà. Alors nous, on a... Ah non, mais nous, il y a 3 ans, j'ai réussi à mettre sur le terrain, en équipe première, 2 pères et 2 fils.
Oh, c'est beau, ça.
Super, ça.
Mais on a fait une photo au club, c'est à des moments, c'est Stéphane Chiron avec Mathieu Chiron à l'époque, qui est toujours au club avec l'équipe B et qui s'occupe même plus ou moins de l'équipe B avec Vincent Gauthier et Quinquin. Donc, je voulais finir en 14e, il y avait Alexis Moreau. J'en oublie un, hein, parce que il y a, comment il s'appelle, Razak, qui était notre numéro 16, Abdoul Razak, et j'en oublie un, j'ai oublié Steven Audin, mon numéro 8 aussi, un charmant garçon.
Et t'as oublié ton numéro 10 aussi, Gianni.
Ah oui, oh là là.
Ah oui, qui sont énormes de jeu, c'est plus une équipe.
C'est mon cousin, des mecs extraordinaires. Ah oui, j'ai pas le droit. C'est un manquement.
Oui, surtout qu'on passe à nos cousins, c'est quand même un des gros noms de Saint-Michel. Enfin, c'est quelqu'un de très bon, que j'ai déjà vu jouer, donc je peux en témoigner. Et par contre, tu n'as pas convoqué Denis Autan?
Alors, Denis, le problème, c'est qu'il a pas repris de licence. Et je voudrais aussi vous signaler un truc. Il y a un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Bouillet au club, qui était avec nous encore dernièrement. Bon, je vous dirai pas les raisons, mais qui a un espèce de garçon hyper, hyper costaud mentalement, et qui est un charmant garçon qui a beaucoup œuvré pour le club aussi. Et je peux vous dire que tous ces garçons-là, mais j'en ai oublié un. je suis débile là. Enfin, c'est dingue ça. Tu oublies un gardien, ça me gêne. C'est le numéro 15.
T'avais pas un deuxième gardien?
Si, mais c'était Razak. Il était blessé. C'est un joueur de champ qui était fait. Alors là, c'est quand même fort de café. Je vous enverrai le nom par SMS. Okay.
Et cousin, c'était le fils à Jean-Marie Cousin?
Oui, alors c'est voilà.
Moi j'ai joué avec Jean-Marie Cousin.
Oui, alors c'est toute la même famille. Les cousins, ouais. Saint-Michel et Nersac, ils ont.
Ouais, j'ai joué avec eux. Voilà. J'ai joué avec eux. Eh ben, si j'ai bien compris, à Saint-Michel, il y a les joueurs, il y a le bureau, il y a le conseil d'administration, il y a tout le monde sur le terrain.
Ah oui, c'est ça.
Parfait, Gianni. Voilà, on te souhaite donc le meilleur. On t'appellera dans le courant de la saison pour faire un point, pour savoir où vous en êtes. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver en fin de saison pour un débrief. Voilà.
C'est gentil à vous, merci.
Merci, bonne soirée. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir, messieurs. Au revoir.